Fréquence Mistral.
Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir des sportifs dans mon studio, puisque j'ai l'humoriste et Andy aventurier Luc Montigo qui nous rejoint aujourd'hui pour un interview. Bonjour Luc.
Bonjour.
Et j'ai sa maman Céline qui est présente également dans notre studio. Bonjour Céline.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir. Alors pour présenter à nos auditeurs, auditrices, votre aventure et vos aventures, faut savoir que Luc Montigo, il est porteur d'un handicap, donc il est atteint de dystonie et il a décidé de se lancer des aventures et des défis assez fous, puisqu'il a fait un tour de France de plus de 3285 km, c'est précis, en courant et en vélo pour sensibiliser à la dystonie. Et il est aujourd'hui en train de préparer un nouveau défi, puisqu'il va faire la traversée en kayak de Toulon à l'île Rousse en Corse, en relais avec sa maman Céline, vu qu'ils vont faire 4 heures chacun pendant 52 à 58 heures, de ce que j'ai compris. C'est un défi assez fou. Il faut imaginer que de Toulon à la Corse, donc à l'île Rousse, c'est 135 miles. Pour les moldus comme moi et qui ne connaissent pas la mer, ça fait 217 km en kayak sur la Méditerranée. On va parler de ce défi assez fou. Mais Luc, est-ce que ma première question, c'est est-ce que tu fais tous ces défis pour culpabiliser les valides comme moi qui ont les jambes et les bras et que tout va bien et qui font rien?
Peut-être. Non, c'est surtout pour dire que tout est possible. Et surtout, à la base, c'est venu... de simples blagues. Le Tour de France, c'était une blague avec ma mère à l'issue d'un triathlon. Donc, elle m'a dit, tu vas jamais t'arrêter, tu vas finir par faire quand même le Tour de France. J'ai dit oui. Et la traversée, j'étais sur la mer, sur la plage avec des potes, un apéro un peu trop arrosé. Et on a imaginé partir en pédalo dans la Méditerranée et tout ça. Le lendemain, j'ai dit, je vais le faire. Donc voilà.
Écoute, c'est un défi relevé sous apéro, donc c'est vraiment un défi 100% marseillais. Luc, comme je l'ai dit, tu es humoriste en plus de ta casquette de Andy Aventurier, donc tu fais des scènes. Moi, j'ai eu la chance de te voir sur pas mal de scènes marseillaises où tu es assez exceptionnel en autodérision, en humour noir, en humour tout court d'ailleurs. C'est quoi le lien là entre Andy Aventurier et humoriste?
Alors, le lien, c'est que pour l'histoire, pour la faire très très courte, à l'issue d'un Tour de France, on m'a proposé de faire des conférences où j'ai rencontré des conférenciers. Du coup, c'est mon métier. Et sur une conférence, sur un TEDx, on m'a proposé de faire un TEDx, donc une grosse conférence qui est accessible sur YouTube. Il y avait l'équipe du Garage Comedy Club dans le public, notamment Fabien. Il est venu me voir. Au début, je l'ai pas vu parce que j'étais un peu grand et il est très petit quand même, faut le dire. Mais du coup, je l'ai vu et il m'a dit ça te dirait de faire du stand-up. Et vu que toute ma vie, je dis pourquoi pas. Mais c'est comme ça que ça a démarré. C'était il y a un an.
Ouais, un an et le parcours est déjà... important, parce qu'en un an de stand-up, tu as quand même foulé toutes les planches de toutes les scènes marseillaises et même en dehors de Marseille. Et aujourd'hui, en plus de ces défis sportifs, tu cartonnes sur les réseaux avec les blagues aussi.
C'est ça.
C'est deux univers. Alors, pour parler de ce projet-là, de cette traversée que je trouve complètement folle, parce qu'en plus, il faut le savoir, pour préciser, parce que moi, j'ai tout sur les réseaux sociaux, mais les gens ne le savent pas, mais avec Céline, donc ta maman, vous revenez tout juste d'une aventure, là, d'un test, si j'ai bien compris, de 24 heures en mer pour... vous entraînez, entre guillemets, c'est ça?
Exactement. On est rentré hier matin.
Ouais, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué?
Oh, on a fait une bonne nuit de sommeil de 10 heures ce matin.
Parce qu'en gros, pour expliquer ce défi, c'est le canoë. Donc, c'est un kayak.
C'est un kayak à pédale.
Un kayak
donc,
à pédale.
En fait, c'est que les jambes qui travaillent et pas les bras, pas les mains.
C'est donc une sorte de kayak qui pourrait ressembler, on peut penser, au pédalo, effectivement, dans l'idée de pousser
ça.
Avec les pieds.
C'est ça.
Et en fait, vous faites des relais de 4 heures, donc la journée, mais aussi la nuit, pour préparer cette traversée. Donc, comment déjà on fait pour pédaler pendant 4 heures dans la mer? C'est quoi le défi le plus important là-dessus?
Je vais peut-être parler de mon sentiment d'abord et après, ma mère va prendre le relais, du coup, comme d'habitude. Et disons que le cerveau, il se met sur off. Et c'est une fois que t'es dansé, les jambes, elles partent. Après, j'ai l'avantage aussi de prendre mon téléphone et de faire des vidéos pour les réseaux, etc. Donc, je fais surtout le débile et des blagues. Et après, il y a des phases, en fait. Il y a des phases où tu te dis, pétard, il n'y a plus qu'une demi-heure. Enfin, pétard, on est juste à une demi-heure ou juste à 1 heure et demie. Mais par contre, arrivé les 3 heures et demie, tu te dis, mais s'il faut rester 6 heures, je reste 6 heures. Donc voilà, ça c'est mon sentiment. Après, je ne sais pas si c'est le
C'est
même.
quasiment pareil, c'est des paliers que tu as à des moments. Mais le plus dur, c'est les 15 premières minutes en fait. Le temps que ça, la machine elle se mette en route, après t'es bien pour les 4 heures, tu les fais bien. C'est quand tu dois sortir du kayak que là tu t'aperçois que bah, ton cerveau il a mis tes jambes en mode step et que bah, tu es plus capable de marcher de suite. Là ça nous l'a fait, on est resté bête en fait, on n'a pas pu sortir du kayak, on a dû sortir en rampant.
Ah oui,
Ouais.
parce que les
Et
jambes étaient...
on n'avait pas connu ça en fait, même sur les entraînements, on n'avait pas connu ça et là on s'est retrouvés. On est resté vraiment bête. Tu mets 2-3 minutes avant de pouvoir repasser en mode bipède.
Ah oui, donc parce que Céline, alors il faut le préciser aussi, toi tu as un défi puisque tu le dis dans la présentation, tu veux montrer qu'une femme de plus de 50 ans peut se remettre au sport parce que tu n'es pas une grande sportive de base.
Quand j'étais jeune, oui.
Ouais, mais du
Mais
coup
ça remonte
depuis,
longtemps.
il y a eu une pause et là c'est une reprise du sport au
Oui,
travers de ce défi que tu as rejoint avec Luc.
Tu as plus de 50 ans, tu as un travail, tu as eu des enfants,
Ouais.
enfin je veux dire, tu as fait une routine et tu as pris du poids, tu vois, enfin, tout ce qui va avec, tout ce qui va avec le corps de la femme qui évolue. Et d'un seul coup, ben, voilà, il arrive et te dit cap ou pas cap. Ben, pas de raison que toi tu le fasses, c'est pas moi.
Ouais.
Donc ben, on va nous aussi montrer qu'une femme de plus de 50 ans qui a son travail du lundi matin au vendredi soir, qui élève ses enfants, qui fait le ménage, la popote et la compagnie, elle est capable de le faire aussi.
Ah ouais, bah, écoute, félicitations à vous parce que chacun donc veut prouver apparemment au monde entier que c'est possible. Luc, parce que Luc, je sais que tu t'entraînes tous les jours, si je dis pas de bêtises. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de te voir tous les jours sur un kayak. C'est simple, quand je vois une story de Luc, c'est soit sur un kayak, soit sur scène, où je me dis, bon, cet homme ne passe sa vie en mer ou sur scène.
C'est ça, c'est ça. Alors, c'est pas que du kayak, il y a aussi beaucoup d'entraînements, celle de sport, etc. Mais comme je t'ai dit, j'ai la chance d'être indépendant et de faire des conférences. Donc je gère mon emploi du temps comme je veux. Et il y a, oui, c'est mardi, jeudi, kayak. Mercredi, samedi, salle de sport. Il y a quand même un jour de repos de temps en temps, c'est pas plus mal. Et sinon, c'est natation, quoi, pour apprendre à nager, parce que bien sûr, je ne sais pas nager. Sinon, c'est pas drôle.
Ah oui, ah oui, donc c'est comme les marins du 19e siècle, c'est tu pars faire des traversées sans savoir nager. Ok.
Exactement.
Ah oui, c'est ben, en plus dans un kayak en pleine mer Méditerranée, oui,
Oui.
ça paraît un peu logique de savoir nager, mais ah oui, donc du coup, et t'as pas d'appréhension par rapport à l'eau du fait de.
Ben non, en fait, parce que ben déjà, je suis déjà tombé pendant le test.
Ah
Donc,
oui.
justement, comme disait maman, quand on remonte sur le catamaran, ben, il y a eu une mauvaise manipulation et je me suis retourné. Mais j'ai un gilet de
Ouais.
sauvetage. Donc, en soi, c'est pas juste à me mettre dos à l'eau et d'attendre, quoi. C'est
Ah
pas la panique non plus.
ouais. Ouais, donc oui, bon, quand même, ça doit pas être un super moment.
C'est ça.
Et au niveau du froid, ça va sur la mer, on finit pas par avoir froid, surtout en cette saison-là, il fait assez frais.
Bah, la nuit, ça a piqué quand même un petit peu.
Ouais.
Donc, en plus de la combi, on a quand même rajouté le coupe-vent parce que mine de rien,
Ouais, ah,
voilà.
donc il y a un coupe-vent par-dessus une
Bah,
combi de...
on l'a mis, oui, parce que bah, on est en février, quoi.
Ouais, bah
La journée, on a eu de la chance par rapport à la semaine dernière d'avoir un beau temps.
oui. Ouais.
Mais la nuit, ça a commencé à bien piquer quand
Ouais,
même.
moi je sais, j'ai froid déjà en polaire à Marseille, donc en centre-ville, donc j'imagine sur la mer. Luc, moi je voulais parler quand même de la dystonie, ce handicap pour lequel t'as fait le Tour de France pour sensibiliser. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la dystonie et ensuite, ben, quel impact ça a justement sur ta performance sportive, en plus ou en moins d'ailleurs?
Ok. Alors, la dystonie, c'est une maladie neurologique qui impacte pour ma part des troubles de l'élocution et de la motricité. Bon, c'est pour ça que je fais du stand-up et des traversées, sinon c'est pas logique.
Les deux endroits où ça t'embête, tu vas
Voilà.
aller.
Voilà. Mais en gros, c'est comme si on avait un câble électrique qui partait du cerveau et qui va jusqu'au muscle. Et ce câble, il peut être fracturé et cassé de temps en temps. Donc, c'est ça, grosso modo, pour ne
Oui.
pas rentrer dans les détails
Oui.
techniques que même moi, je ne connais pas. Mais en gros, c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment la motricité fine et l'élocution. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'orthophonie jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai fait du judo et j'en fais toujours depuis mes 3 ans qui a permis à pallier à ce handicap, cette dystonie. Et voilà quoi. Donc c'est, moi je dis que le meilleur médicament en fait, c'est vraiment le sport, parce que au plus tu travailles le muscle, tu travailles différemment forcément, mais au plus tu t'adaptes, au plus la vie est cool quoi.
Ouais, donc ça aide aussi dans le quotidien de faire du sport régulièrement pour, j'imagine, comme les séances de kiné en vérité, dans
C'est
beaucoup
ça.
de cas, quoi.
C'est ça, exactement.
Et justement, sur tes entraînements, sur ta performance sportive, en quoi ça, c'est quoi les impacts justement sur ta préparation?
Ben là, tu vois, par exemple, j'ai un problème à la main gauche. Ça fait 10 ans, je la contrôle plus. Enfin, je la contrôle, mais en gros, si tu veux, quand je tire un truc, la main, elle lâche.
Ok.
Grosso merdo, c'est ça.
Elle fait
Donc,
l'inverse de ce que tu veux faire du coup.
c'est ça.
Ok, pratique.
Donc, si tu veux, tous les 6 mois, je fais les injections de Botox dans le muscle à l'avant-bras pour justement figer et retrouver cette motricité que je n'ai plus. Mais à l'entraînement, par exemple, quand il faut tirer des poids, tu sais, tirer vers toi, mais avec mon coach, on a trouvé des poignées avec des crochets. Donc, je m'appelle capitaine crochet à la salle. Et ça permet de crocheter la machine et de tirer qu'avec ton avant-bras et pas avec ta main.
Ah, c'est bon, j'ai compris, oui, d'accord.
Voilà.
Et ça évite d'avoir à faire la pince avec la main, donc
C'est
du coup, c'est
ça.
juste la force des bras qui va
C'est
travailler.
ça.
Ok.
Donc tu travailles différemment, mais tu travailles quand même tous tes muscles et tout ça. Et après, ben là, par exemple, le gouvernail, il est à gauche. Donc, ben, je me suis fait une ampoule au doigt afin de le tenir, etc. Donc, à la deuxième session de 4 heures, ben, j'ai mis un gant.
Ok,
Et
oui,
avec le gant, ça me passe beaucoup mieux. Un gant de jardinage, tu sais, les trucs en caoutchouc.
ouais.
Et voilà quoi. Donc, tu t'adaptes constamment, mais en fait, quand je m'adapte, c'est le quotidien.
Ouais.
C'est naturel de s'adapter, c'est pas ouf, il faut encore s'adapter.
Ouais, c'est quelque chose que tu vis depuis le début, donc
Voilà.
j'imagine que oui, c'est une adaptation de plus ou
C'est
de
ça.
moins, ok.
C'est ça.
C'est vrai que c'est une aventure qui est assez folle parce que, bon, en plus, maintenant j'apprends que tu sais pas nager avant de se lancer dans ce défi. Mais c'est vrai que cette traversée de la Méditerranée, en tout cas de Toulon jusqu'à l'île Rousse, Céline, toi quand même, est-ce que tu savais nager? Est-ce que tu avais peur de la mer avant ou t'es tranquille en mer?
Non, la mer, ça va.
Ça va?
Je sais nager, j'aime la mer,
Ok.
mais...
Ouais, mais même parce que voilà, c'est ça, il faut avoir quand même une appétence, moi, j'imagine, pour aller en mer, se lancer comme ça dans une aventure. Moi, perso, je le dis parce que j'ai peur de la mer. Pour être sincère, j'ai une conjointe qui est une grande fan de voilier et je lui ai dit tout le temps, moi, tant qu'on voit la côte, ça va, mais j'aime pas aller trop trop loin non plus. Vous n'avez pas cette peur, vous, de.
Non, au
Ok.
contraire, moi je préfère quand
Non.
on voit pas la côte.
Ok, bah écoutez, c'est génial, je suis le seul peureux de ce studio, ça fait vraiment plaisir.
Merci.
Lucio, tu le dis j'ai regardé le dossier de presse qui était préparé quand même avant votre venue, et tu parles d'un moment où tu t'es dit que tu avais un choix, c'était subir ou combattre dans le handicap,
C'est ça.
et que tu as pris cette décision, donc j'imagine, de combattre.
C'est ça. En fait, ben, quand je te disais au début qu'on m'a mis au judo parce qu'à 3 ans, tu fais pas tes choix, c'est tes parents
Ah oui.
qui font les choix. Mais on a décidé, voilà, ben, il n'y a que deux choix à faire, hein, il n'y a que deux solutions. Donc, c'est soit subir le handicap, ou soit tu te dis, bon, allez, on va aller de l'avant, on se sort les doigts, comme on dit chez nous. Et on voit pour essayer d'être mieux et pour essayer que ça se fasse bien. Et donc, du coup, voilà, on m'a mis au judo, on avait beaucoup de kiné. Et le prof de judo, il avait la même mentalité que mes parents, c'est-à-dire, Je vais pas le désigner bien au contraire, je vais pas le laisser de côté bien au contraire. Donc, par exemple, j'ai cette image qu'on me raconte où je faisais des roulades avant, roulades arrière tout le long de pendant les échauffements et tous mes camarades avaient terminé. Moi, j'étais au milieu, je regardais mon prof pour dire est-ce que je peux me lever et y aller en courant. Ben non, on l'attend.
Ah oui.
Donc, quand tu as 40 élèves petits qui te disent bon, bouge-toi parce qu'on n'a pas que ça à faire, ça forge.
Ouais,
Mais c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui.
ouais. C'était
Voilà.
ouais, donc d'affronter en tout cas plein fer. Céline, j'imagine que c'est une mentalité dont tu as contribué à forger ou en tout cas d'une manière ou d'une autre. Comment t'expliques justement cette résilience, toi, de ton point de vue de maman, puisque c'est lui qui l'a réussi à faire voilà un tour de France en vélo et en courant déjà de 3 285 km, sachant que je pense qu'il y a très peu de gens valides même qui le font. Comment tu expliques cette résilience et en tout cas cette envie d'affronter les choses?
Ben en fait, la vie, elle est belle, mais pour ça, il faut la vivre. Et si tu lui dis, tu restes dans un coin et tu bouges pas, et puis on attend qu'il y ait quelque chose qui passe devant toi, c'est nul.
Ouais, bah
Donc en fait, ben, tu peux prendre tout ce que tu as à prendre. Et pour ça, il faut que tu te bouges.
oui.
Voilà.
Oh,
Donc
bah écoute, on va sur les...
tout s'adapte.
Ah bah c'est en tout cas, moi, ça me motive personnellement. Là, je me rends compte que c'est bien parce que je me rends compte que je suis peureux et je suis très fainéant du coup. Mais du coup, on va se mettre une petite pause musicale et rester sur ces mots avec King of Convenience et on revient tout de suite dans notre mag du midi.
To be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. You feel vulnerable around. Change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. I stepped too close to your boundaries. You wanted nobody around to see. Love and what's just a game we're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of.
Et donc on revient tout juste après King of Convenience. Donc, on est très, même en off, on continue de parler de cette aventure, puisque j'aurais expliqué à quel point moi, la mer, c'était pas mon truc, mais je vois qu'encore une fois, j'ai des vrais aventuriers dans ce studio qui m'expliquaient à quel point non, c'est pas un problème d'aller en mer en pleine nuit, pédaler pendant des heures et des heures. Je l'ai dit, justement, vous préparez pour cette aventure qui va se dérouler très bientôt, puisque ce sera en juin.
Ouais, c'est ça. Alors, on prend une plage météo, forcément, parce que c'est la mer
qui
décide pour nous et on rentre dans son univers. Donc, la sécurité et tout, c'est primordial. Donc, la plage météo, c'est du 13 au 28 juin. Et après, soit on parle le 13, soit le 14, soit le 15, jusqu'au 28, on peut partir.
Et justement, ce rapport à la mer, puisque j'imagine qu'en passant autant de temps en mer, ou en tout cas en rapport avec la mer, qu'est-ce qu'elle nous apprend, la Méditerranée, ou la mer en tout cas ?
La nuit dernière, elle m'a appris qu'il faut savoir lâcher, c'est-à-dire que la mer s'est levée. Les deux premières fois, on m'a dit « tu remontes », j'ai dit non, mais la troisième fois, le capitaine m'a dit « maintenant, t'as plus le choix, tu remontes ».
Ah ouais,
parce que,
devenait
parce
dangereux.
Ouais, il m'a dit « la sécurité, c'est la priorité », donc j'ai fait 1h40 à la place de 3h sur le dernier relais parce que c'était la sécurité d'abord.
Oui, bien sûr. Et j'imagine, parce qu'on en parle moins, mais il y a toute une équipe aussi qui vous accompagne dans ce défi sportif, puisqu'il y a un catamaran qui va vous suivre avec 8 personnes à bord, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Ces personnes à bord ?
Alors, déjà, il y a le capitaine et sa femme, Bob et Tatiana, qui nous suivent. On a fait le test avec eux. Ça a super bien passé, donc ça c'est très important aussi d'avoir une belle équipe soudée et que tout le monde s'entende bien. Ensuite, on va avoir Nathalie, notre ostéopathe, qui va nous suivre au niveau médical.
Ok.
Et après, le plus gros, on va dire, d'équipe, c'est l'équipe de tournage.
Moins simple.
Qui est présent aussi, moins un, parce qu'il y a vomito dans l'histoire, mais on en reparlera. Voilà. Qui nous a suivis sur le Tour de France et qui, dès qu'on a dit on va faire ça, mais parce qu'on est devenus des amis, ils nous ont dit on va revenir.
Ah bah oui.
Voilà.
Parce que du coup, ils font un documentaire, un film sur ces aventures ?
Un film documentaire. Il y a déjà eu le premier film documentaire sur le Tour de France.
Ok, génial.
Donc, ils l'ont monté. Et là, on cherche des distributeurs pour distribuer. Je diète un peu pour pas... mais ils font leur boulot. ils sont repartis sur le projet. Mais l'avantage de celui-là, c'est que sur le Tour de France, ils sont arrivés au départ. En fait, je parle beaucoup d'eux parce que c'est comme le projet, en fait. Tous les projets, c'est des histoires de rencontres. Et là, on ne se cherchait pas, on s'est rencontrés sur un événement au hasard. Et le feeling est bien passé. Et ils m'ont dit, on sera là à ton départ. Mais entre la rencontre et le départ du Tour de France, on ne s'est jamais revu. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. S'ils sont là aujourd'hui, c'est que ça a bien passé.
Ouais.
Et donc c'est devenu vraiment des amis et ils nous suivent. Ils sont autant tarés que nous.
Je vois sur j'ai vu sur les stories. De toute manière, j'ai vu que le preneur de son avait eu quelques soucis en mer. Apparemment, c'est pour lui que ça a été le plus difficile, l'épreuve. Qu'il a été malade très rapidement.
Mais au bout de 4 heures, j'ai fait mes 4 heures. Et au début, il faisait un peu le malaise sur le bateau, tout le monde sur le bateau et tout. Et à 2h30, il était à l'avant du bateau, il répondait plus. Et à 4h, le son, il était rempli, mais pas d'eau.
Clairement, celui qui affronte la plus grosse épreuve, c'est le preneur de son de l'équipe. Ouais.
C'est ça.
Un beau message de résilience pour tous les preneurs de son en France et ailleurs. C'est ça. Je voulais savoir cette aventure, puisque dans la première aventure, c'était justement pour sensibiliser donc à ce handicap, la dystonie. Et aujourd'hui, vous faites cette aventure au profit d'une association également.
C'est ça.
On peut parler un peu de cette association. Donc, c'est l'association Louis, Jules et compagnie qui vient parler de l'autisme et de tout ce qui est lié au spectre de l'autisme.
C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, je te parlais d'une histoire de rencontre. Mm-hmm. C'est aussi une rencontre. En fait, on cherchait une association qui nous ressemble, etc. Et mon cousin est autiste. Mmh. Et il a été accompagné par cette association. Donc, c'est très naturellement que j'ai dit on va le faire pour cette asso.
C'est génial.
Et du coup, je l'ai appelé et le feeling s'est super bien passé. Et donc, c'est pour cette association qui vient en aide aux autistes et aux familles.
Oui, aux familles qui doivent gérer, justement, apprendre à... Parce qu'on en parle, on en a parlé, on a eu des invités sur ce sujet ici même dans la radio et qui expliquaient justement l'accompagnement scolaire qui était un peu défaillant en France pour les enfants porteurs du spectre, enfin d'autisme, parce que c'est large, c'est l'autisme, ça. En fait, c'est plein de formes d'autisme différents. Et justement, je voulais savoir, cette association, elle est située à Marseille, Toulon, elle est où?
Soliesmont.
Où
à Soliès, dans le Var.
Ok, d'accord.
Ouais, c'est donc... après Toulon.
Ok.
Et ils prennent aussi beaucoup en charge tout ce qui est famille et tout ce qui est en dehors, justement, du truc scolaire. C'est... Les enfants, ils vont leur donner des activités où ils ne se sentiront pas à l'écart. Mmh. Et un gros, gros soutien pour les familles parce que c'est... Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi au niveau mental, c'est important.
Oui, l'équilibre psychique de toute la famille d'ailleurs.
C'est ça. Mmh. Donc il faut bien les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents. C'est important de les soutenir aussi parce que ce qu'ils vivent au quotidien, c'est monstrueux. Quoi. C'est énorme. La résilience à côté, nous, c'est rien.
Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Vous avez... bon après voilà, moi j'ai l'impression de mon point de vue, c'est vrai que ça me culpabilise encore une fois. si vous pouviez changer une chose, alors ça c'est une question, je m'amuse des fois sur les questions, je me suis demandé si vous pouviez changer une chose sur l'accompagnement justement au handicap en France. Alors le handicap c'est quelque chose de très large, puisqu'on a dit il y a plein de formes d'autisme, il y a la dystonie que je viens de découvrir aujourd'hui, puis toutes les formes d'handicap. En tant que parent et en tant que porteur de handicap, qu'est-ce que vous changeriez en France, en tout cas dans notre pays, sur cette question du handicap? Une seule chose, hein, pas mille. Hein.
Non, moi, j'en donnerai qu'une, mais c'est vraiment dans le monde des bisounours. Hein. C'est le regard des gens.
Ok.
Le regard, juste ça.
Et quoi changer dans le regard des gens, justement?
Ben, en fait, pas voir la différence dans le sens négatif. Mm-hmm. La différence, c'est une chance, en fait. C'est-à-dire que tu sois blond, que tu sois brun, que tu sois... Enfin, je veux dire, tout ce qui est différent, ça apporte à l'autre. Mm-hmm. Alors, plutôt que de voir tout ce qui est différent, ça me fait peur, je regarde ailleurs.
Mm-hmm. Ok, moi, c'est un message en tout cas qu'on peut que cautionner ici. Et toi, Luc?
Elle m'a volé la réponse.
Allez, voilà. Bravo Céline.
Non, mais c'est vraiment, voilà, quoi. Ne pas avoir peur du handicap. Mm-hmm. Parce que, et en parler simplement. Toi, tu as déjà vu, et je spoil un peu une blague de mon stand-up.
Oui.
Mais pourquoi on dit personne en situation de handicap et pas handicapé?
C'est vrai, ouais.
Tu dis pas personne, tu dis pas animal sur quatre pattes qui fait miaou.
Ouais.
Voilà, tu dis un chat. Mm. Donc c'est pareil, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Enfin, après, c'est ma vision des choses, mais pour moi, voilà, t'es brun bouclé, je vais pas te dire, t'as les cheveux un peu ondulés, d'une couleur sang, c'est bon, je t'entends pas, quoi.
Tu peux dire bouclé, moi j'aime bien en plus, hein, j'en suis très fier.
Ça, le temps de dire bonjour, c'est la nuit, quoi, donc, voilà. Mais en gros, c'est ça, c'est parler simplement, librement, parce que je pense que si on en parle simplement, il n'y a pas de maladresse, au contraire.
Ouais. Donc, en fait, pouvoir en parler, de changer ce regard, enfin, en tout cas, le regard des gens, il se simplifie face à ça.
En fait, les gens, en voulant prendre des pincettes, en fait, à la place de prendre des pincettes envers la personne en disant personne en situation de handicap, ils te mettent une distance, plutôt que de dire handicapé.
Ouais,
on dit t'es un homme, on dit pas t'es une personne sexuellement dotée d'un appareil génital.
Moi, je veux bien qu'on me dise ça, mais.
non, voilà, mais oui, mais je comprends. C'est vrai, tu mets des distances à la place.
Quatre mots d'écart déjà. Ouais. Donc, de parler des choses simplement. On va se faire une petite pause musicale et revenir juste après. Je voulais vous mettre une musique, je me suis dit, qui résume bien là, les aventures que vous êtes en train de vivre. Donc, j'ai vraiment cherché, j'ai beaucoup travaillé, puisque voilà, je suis un vrai grand travailleur de l'espace. Et j'ai trouvé donc Survivor, The Eye of the Tiger. Parce que là, clairement, on y est, quoi. We'll be right back. revient donc après Survivor. On s'est remobilisé, remotivé. Justement, on parlait. Enfin, moi, j'étais encore en train d'exprimer ma terreur des océans et des mers à Luc et Céline qui étaient en train d'essayer de me dire.
Il va nous empêcher de le faire.
Ah ouais, j'étais là. Arrête de nous raconter n'importe quoi. Je voulais savoir, Luc, comment on fait pour gérer le sommeil? Parce que moi, c'est quelque chose qui me paraît fou. C'est ce relais là qui va durer donc 52 à 58 heures si tout se passe bien. C'est des 4 heures chacun. Donc, Céline 4 heures et toi 4 heures et vous vous relayez comme ça pour faire cette traversée. Comment on fait pour gérer le sommeil en 4 heures? On fait quoi? On sort de son kayak et on dort de suite ou on mange, on fait une sieste?
Je parlais pour moi et après tu prendras encore une fois le relais. Mais moi depuis cet été je m'entraîne à faire des siestes.
Ok, 20 trop
minutes.
Ah, ben ça, c'est un entraînement qui me plaît, ça.
tous mes amis me disent tu te fous de ma gueule, mais je dis mais non, c'est vraiment un entraînement. Donc, en fait, ce qui me permet de. Je ferme les yeux, je parle de suite. Mm-hmm. Et en fait, c'est ce qui s'est passé sur ce test. C'est alors, tu dors un peu plus, tu dors une heure à une heure et demie. Mais voilà, je ferme les yeux, je parle direct. Donc ça, c'est un gros avantage. Après, voilà, je sors de mon kayak, je me rince beaucoup. Voilà.
Il y a une douche dans le catamaran pour se rincer du sel, ouais.
Mais voilà, je me rince un peu à l'eau douce. Et après, je mange et je pars de suite me coucher. Et en me réveillant, soit je gère un peu mes réseaux sociaux petit à petit, le temps de me réveiller, de me chauffer et tout ça. Et après, on évite. Il faut vite reprendre le relais, quoi. Donc, Donc voilà.
Ouais, c'est toute une organisation et un entraînement à sieste. Je ne savais même pas que c'était possible, ça j'adore. Céline, toi, tu fais comment pour gérer ces...
Moi, malheureusement, je ne m'entraîne pas à la sieste.
Ah ouais.
Je travaille.
Ah ouais.
Et je l'ai testé là, hein, on verra bien. Après, il faudra que je m'habitue mieux, on va dire, plus à... Enfin, je ne sais pas s'il ne faut pas rentrer dans la méditation presque, tu vois, pour pouvoir décompresser. Mm-hmm. Parce qu'en fait, quand tu sors, tu es quand même excité. Tu viens de faire tes 4 heures. Tu es fatigué, ton corps est fatigué, mais ton cerveau, lui, il est à fond.
Ouais.
Donc, lui, il a cet entraînement au sommeil que moi, je n'ai pas. Donc, il va falloir que je le gère aussi. Mais il faut manger. Mais ouais. Bon, tu remontes sur... quand tu arrives sur le kata, en fait, tu n'as qu'une envie, c'est de voir avec les autres. Alors, est-ce que ça a été bon le temps? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, donc, tu pars sur des trucs et tu dors plus.
Et comment on mange quoi, justement, pendant une traversée parce que j'imagine que c'est pas de la raclette entre deux, donc...
Non, c'est non. Pas de la raclette. Non, les légumes verts, des pâtes, des protéines, tout ce qui est viande, poulet. Mais là, c'est pareil. On a testé une première fois selon l'alimentation. Après, on va retester. On était parti voir une diététicienne aussi.
Okay.
Parce que bon, c'est toutes les 4 heures, donc tu vas pas faire un repas toutes les 4 heures.
Ouais.
C'est pas logique. Après, ça va être aussi selon tes envies. Si tu montes et que tu as envie de sucrer, on va pas te forcer à manger du salé.
Oui, on s'écoute aussi.
Il faut juste qu'il y ait ce qui est nécessaire pour tes muscles, pour le fonctionnement en fait, de ton corps, parce que c'est une machine.
Et donc, c'est de quoi? De la protéine, du glucide
Oui, après, tu as en plus, celui qui a envie de cacahuètes, il les aura en plus. Hein, ouais. Mais tu as quand même de base tout ce qui est protéines, des fibres, tout ça dans ton repas. Et après, le reste, c'est en plus si tu as envie d'autre chose.
Et ok. Et alors, je pense qu'il y a une constante ultra importante dans tous les défis que tu réalises, Luc, c'est qu'il y a l'esprit. Parce que là, on a parlé de la préparation, du sommeil, de l'entraînement. Mais comment on prépare l'esprit pour des défis comme ceux que tu réalises, notamment ce Tour de France qui est un défi énorme. Et ensuite, donc là, cette traversée qui est encore une fois, j'imagine... En tout cas, moi, je le vois, une somme de peur, d'angoisse, de gestion de la fatigue, du stress. Comment on fait pour préparer l'esprit à ce genre d'épreuve?
Alors, sur le Tour de France, j'ai un peu négligé, entre guillemets, ce côté-là. Donc, je suis allé en mode, vas-y, j'y vais. Et je me raccrochais à me dire, bon, mais voilà, il y a plein de gens qui ont cru en toi. Il y a des sponsors, des partenaires. Et je le fais pour l'association, donc je m'accrochais principalement à ça. Et ça marchait très bien. Mais là, je me suis dit, voilà, pourquoi pas passer à l'étape supérieure et prendre une préparatrice mentale. Donc, j'ai un ami qui m'en a conseillé une en Suisse, qui fait ses études. Donc, en fait, c'est un échange. Voilà, elle s'entraîne sur moi et moi, j'ai son savoir. Et toutes les 2 semaines, on se voit en visio, on parle, on discute et elle me donne des techniques pour voilà, mentalisation, etc. Apprendre à tomber. Et en fait, au plus tu tombes, au plus tu apprends ton cerveau à tomber, et au plus quand tu vas tomber, c'est automatique. Je m'en sers aussi beaucoup pour le stand-up, en fait, parce que la voix, des fois, c'est après les scènes et tout ça, mais c'est comme un bide. Voilà comment tu gères ton bide, etc.
Ouais. Alors pour les bides, pour les auditeurs et auditrices, c'est un passage de stand-up qui ne fonctionne pas du
Voilà.
tout. Donc on appelle ça un bide dans le milieu. C'est quand on vient, qu'on fait des blagues et que les gens ils nous regardent comme si on était en train de leur parler. Et ça,
Et
c'est
ça,
des
c'est pas
conférences qu'on
drôle.
n'a pas envie du tout de vivre pour nous les humoristes.
Voilà. Donc voilà, tu apprends ton cerveau à faire ça, donc mentalisation, etc. Et dans toutes les 2 semaines, je la vois en visio et elle m'aide, elle m'accompagne. Dès que j'ai une question, quelle que soit la question, je prends mon bloc-notes, je la note et avant rendez-vous, on creuse la question. Et après, voilà, quand il n'y a pas de. Disons qu'elle m'a enlevé beaucoup, beaucoup de peur que j'avais sur cette traversée.
Ouais, donc il y a une préparatrice mentale qui est bien là pour accompagner dans
Ah
ce
oui.
projet, puisque c'est pas qu'un exploit physique, c'est un exploit mental aussi, faut bien le
Exactement.
rappeler, ouais, parce qu'on a eu la chance aussi de recevoir dans ses studios, c'est Araka Tchadourian,
Ouais.
qui est un Marseillais qui réalise énormément d'exploits sportifs, il a battu le record du monde de planche, il y a pas longtemps, la
Ouais.
planche, la position sportive, et il a fait l'Himalaya et également une traversée en marathon jusqu'à Erevan, si je dis pas de bêtises, où il est allé jusqu'au Liban en courant, et il a fait une traversée
En avion,
En aviron aussi également. Donc c'est un aventurier marseillais aussi qui vient dans ces studios. Est-ce que vous avez échangé avec Ara?
oui, bien sûr. Ara, on me l'a présenté avant mon tour de France. Donc j'ai pu échanger un peu avec lui pour lui poser quelques questions sur le tour et tout ça. Et c'est aussi, on s'est bu un café avant la traversée, quoi.
Ouais,
Donc avant que j'annonce la traversée, je lui en ai parlé et il m'a donné quelques conseils. Il m'a dit, fais-le plutôt comme ça que comme ça. Et c'est grâce notamment aussi à lui qu'il y a eu des changements.
Ouais, il a apporté son
Oh.
regard sur
Oui.
l'aventure.
Et il venait de faire Marseille-Beyrouth à la rame en plus,
Voilà,
donc
c'était Marseille-Beyrouth à la
c'est
rame,
ça.
et je sais qu'il a fait Marseille-Erevan en courant en course à pied. Ouais,
Exactement,
c'est ça.
c'est ça.
Je remets les choses en fur et à mesure. Parce qu'on a des aventures. Moi, je sais que tous les jours, je vois des gens passer dans ce studio et je me dis waouh. Ça motive en tout cas. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez voulu abandonner? Est-ce que ça a été une option à un moment ou l'autre? Est-ce que c'est des moments où c'est revenu ou pas?
Non,
Non.
non, c'est pas, ça fait pas partie du choix possible.
Ok, donc pas de Céline ne laisse pas de choix à
Non, à ce
l'abandon.
niveau-là, il n'y en a pas, non.
Non,
Non, non.
abandonner, non. Mais par contre, dire à ma mère, dès qu'on a fini les 4h, 4h en Corse, on va être dans le
Ah,
sale état.
ça oui.
Ça, oui.
Ouais,
Ça.
donc
Non,
savoir se préparer à la souffrance,
on
mais pas.
ça, ça.
on savait qu'on allait morfler, mais là, on sait que par contre, on va plus que morfler.
Ouais, non.
Mais c'est pas grave, parce que on sait pourquoi on le fait aussi.
Oui, voilà, on sait pourquoi, et de toute façon, on a la chance de pouvoir le faire. Donc,
La douleur est éphémère et
voilà,
l'exploit est
exactement.
immortel.
C'est ça.
Je voulais savoir comment on peut faire pour vous retrouver sur suivre cette aventure, parce que moi je vous suis, hein, j'ai le plaisir de pouvoir voir cette aventure en cours, mais comment on fait pour rejoindre l'aventure, vous suivre, comment on peut soutenir l'association que vous représentez, comment ça se passe?
Alors, c'est tout sur mon Instagram, donc autour de Lucho, donc autour AUTOUR de Lucho, LUCO, LUCO, pardon.
Bien sûr.
Et après, sinon, voilà, il y a un site, c'est autour de Lucho.com, où tu vas voir la présentation, etc. Et que ce soit sur mon Insta ou sur le site. Il y a un lien pour faire un don sur une cagnotte et toute cette cagnotte ira à l'association Louis-Jules et compagnie à la fin du projet.
D'accord, donc on retrouve sur l'Instagram autour de Tcho, le site internet également. On vous souhaite, Céline et Luc, une bien belle aventure en espérant que la météo et les dieux de la Méditerranée soient avec vous, que vous ayez des conditions parfaites et si elles ne sont pas parfaites, qu'elles ne soient pas trop non plus compliquées. Courage, en tout cas, moi je tiens à vous le dire, je suis admiratif parce que c'est un sacré défi que vous vous êtes lancé et on aura plaisir à vous suivre et peut-être même à vous recevoir après le défi pour faire un débrief. Puisque je serais curieux d'avoir votre retour après l'aventure. Luc, force à toi. Hein, merci de nous laisser les plateaux libres pendant 2 jours, en tout cas. et nous laisser être drôle sans toi. Mais écoute, force à vous sur cette aventure. Et à bientôt.
Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.